L'oriental a une mentalité concrète, rebelle aux abstractions philosophiques. Il aime les images, les comparaisons, tout ce qui met un peu de pittoresque, de piment dans le discours. De là son goût pour les proverbes, qui expriment une vérité morale en faisant appel à l'imagination. Le proverbe a pour but d'atteindre la conscience. La poésie, quant à elle, veut atteindre le cœur. C'est pourquoi ces quelques versets que nous avons lus ne sont pas uniquement, comme l'indique la note introductive de la Taube, des conseils en économie rurale, mais il faut maintenant élargir le sens des termes que nous avons lus et voir quel message véhiculent ces animaux. Pour nous, aujourd'hui, 3 juillet 2022. Ces quatre animaux sont marqués par la limitation et par la faiblesse. Ils sont opposés aux quatre êtres majestueux qui suivent dans les versets 29 à 31. Ce qui doit susciter ici notre admiration, ce sont les qualités évoquées. Je commence par la fourmi. Nous avons lu ici au chapitre 30, le verset 24, mais il aurait fallu y ajouter le chapitre 6 du livre des Proverbes, qui dit ceci: « Toi qui es paresseux, va vers la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, elle fait des provisions. » Combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Dans bien des cultures, la fourmi est considérée comme symbole de travail et de prévoyance. Ceci n'a pas échappé à la sagacité de notre fabuliste national, Jean de La Fontaine, en écrivant la fable « La cigale et la fourmi ». Le paresseux est un personnage tragicomique, à cause de sa fainéantise quasi-animale. Nous voyons au chapitre 26 qu'il est attaché à son lit, et puis qu'il formule des excuses invraisemblables pour ne pas travailler. Il y a un lion dehors. Le terme de paresseux signifie non seulement fainéant, mais craintif, négligent, hésitant. Deux leçons donc s'imposent. Mais elles sont dans le texte. Éviter d'être paresseux et ensuite être prévoyant. Ne pas être paresseux. L'auteur de la lettre aux Hébreux est inquiet, voire même très inquiet, parce que les destinataires de la lettre devraient être des maîtres, ils en sont encore au lait maternel. Et l'auteur évoque une situation critique. Car ces chrétiens étaient devenus, traduction littérale d'Hébreux 5:11, paresseux d'oreille. Et s'ils ne corrigeaient pas le tir, ils deviendraient entièrement paresseux. Hébreux 6, verset 11. L'état d'inertie mentale ou spirituelle se prolongeant, il en résulte un affaiblissement et un accroissement de la paresse intérieure, qui peut déboucher sur un cœur mauvais et incrédule. Soit dit en passant, l'incrédulité n'est pas un péché de païen, c'est un péché de chrétien. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux nous invite et nous exhorte à ne pas se relâcher. Nous sommes gouvernés par ce que nous entendons, plus que par ce que nous lisons. L'impact des mots peut avoir un effet dévastateur, comme les mots peuvent réanimer notre courage et nous aller de l'avant. Nous vivons des temps difficiles, mais je voudrais citer deux choses. Un exemple de l'Ancien Testament et un exemple du Nouveau Testament. Nous avons dans le livre du Lévitique, au chapitre 8, l'intronisation et la mise en service des prêtres, Aaron et ses fils. Et Moïse procède de la façon suivante. Il met du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. Une oreille pour Dieu, un travail pour Dieu, une marche pour Dieu. Je vais à l'autre bout de la Bible, 2 Timothée 4:3. Et je vais citer la version Chouraki, qui est une version décapante, mais extrêmement précise. Dans les derniers temps, les hommes s'entoureront d'une foule de maîtres pour leur chatouiller l'ouïe. Autrement dit, traduit dans nos versions actuelles, entendre des choses agréables. Nous sommes sacrificateurs de la nouvelle alliance. Apocalypse 1:6 déclare « Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs ». C'est pourquoi veillons à avoir notre oreille bien ouverte sous le contrôle du Saint-Esprit. Être prévoyant. On a tendance à assimiler prévoyance et thésaurisation, parce qu'aujourd'hui c'est l'aspect mercantile du mot qui est décliné. Aujourd'hui, la frontière entre la richesse et la famine est vite franchie. Il suffit d'écouter ce qui se passe autour de nous. Il faut donc prévoir. Et prévoir, c'est voir au-delà des circonstances. La fourmi est passée maître dans l'art de préparer et de planifier le travail. Elle prévoit, elle fait des provisions. Elle sait que la bonne saison ne durera pas toujours et qu'il y aura des temps de disette et de famine. Être prévoyant, c'est une disposition d'esprit. Cela demande une qualité d'analyse de notre esprit. Si vous lisez par exemple le psaume 77 et dans bien d'autres psaumes, nous lisons que le psalmiste dit « Je réfléchis ». Mon esprit fait des recherches. Je passe la nuit à réfléchir. Je cherche à comprendre. C'est analyser. Et en grec, analyser également a le sens de délier, de résoudre. Cela suppose de tirer les leçons des expériences, être capable de prévoir les implications et les conséquences d'une décision et d'une position. On ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en la jetant par la fenêtre. On la fait descendre l'escalier marche par marche. C'est pourquoi nous devons être attentifs à ce que dit l'Écriture. Le Daman. Le Daman est un petit herbivore de la taille du lapin. Ce sont des animaux timides, prêts à se retirer dans les crevasses du rocher au premier cri poussé par la sentinelle. Conscients de leur propre état naturel d'impuissance à se défendre, les damans viennent à creuser dans le rocher et à se protéger ainsi de leurs ennemis. Le daman recherche un asile, et par définition, un asile est inviolable. Cela présuppose que celui qui le recherche prend conscience de sa faiblesse et de la nécessité d'y recourir. Il y avait un roi en Israël qui est l'application de ce que je viens de vous dire. C'est le roi David. Toute sa vie durant, il fut confronté à des problèmes et des difficultés sans nombre. Sa famille l'avait complètement ignoré. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 17, on avait oublié de l'appeler parce que Samuel venait désigner un nouveau roi en Israël, à la place de Saül. Et quand Samuel lui demande à Isaïe, le Bethléemite, « N'as-tu pas d'autre fils ?» Ah oui, on s'est rappelé qu'il y avait David. Lorsqu'il entra au service de Saül, il fut un homme toujours persécuté. Et quand il devint roi, il dut résister à ses neveux, les fils de sa sœur Tseruja, Joab et ses frères, qui n'étaient pas des tendres. David dira d'ailleurs lui-même, en 2 Samuel 3, verset 29, « Bien que j'ai l'onction, je suis faible. » Voilà un homme donc qui a cherché sur le terrain ou se réfugier. Et c'est pourquoi l'Écriture, dans 1 Samuel 22, 23 et 24, nous parle de ces tribulations. Il s'était réfugié dans les lieux forts et élevés de En-Gedi. C'est à l'ouest de la mer Morte, à peu près à 45 km de Jérusalem. Et là, dans les grottes d'En-Gedi, dans la fameuse caverne d'Adoulam, c'est là qu'il écrivit les psaumes 57 et 142. Pendant que ses compagnons dormaient, lui était levé. Il avait dit « Je réveillerai l'aurore ». Avant que le soleil ne se lève, il était déjà en prière et en méditation. C'est également notre position, selon Romains 8, 26. L'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En Christ, les faibles sont forts et ceux qui sont sans défense se trouvent en sécurité. Au passage, mais sans développer, les Damans, c'est une application pratique de Matthieu 7, versets 24 et 27, c'est-à-dire celui qui bâtit sa maison sur le roc. La sauterelle. Ici, nous trouvons l'application de l'adage « L'union fait la force ». Les sauterelles se déplacent en troupes ordonnées. L'ordre conduit à la paix et à la communion. 1 Corinthiens 14, 33 déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le but du diable fut de jeter le désordre dans la création. Et tout devint, selon la formule hébraïque, tohu bohu, c'est-à-dire tout sens dessus-dessous. L'ordre est fortement souligné à propos des ministères et des charismes dans 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, Romains 12. Tout ceci ayant pour but la croissance de l'Église, mais aussi d'annuler tout désordre et ou être flottant et emporté à tout vent de doctrine. L'ordre est un facteur de stabilité. Une remarque s'impose, les sauterelles n'ont pas de roi, mais néanmoins, chacun est à sa place. Si nous considérons le livre des Nombres au chapitre 2, où nous est exposée la disposition des tribus lorsqu'elles étaient dans le désert. Judas ouvrait la marche avec les tribus d'Issacar et de Zabulon. La tribu de Dan, de Nephtali et d'Aser, fermait la marche. Ce ne sont pas des positions que chacun avait prises à sa guise. C'était un ordre donné par Dieu à Moïse. Et à l'intérieur de ça, vous aviez les Gershonites, les Kéhatites et les Mérarites qui avaient en charge de démonter, de remonter le tabernacle. Tout se faisait dans l'ordre. Si nous sommes pêle-mêle, il n'y a que notre soumission à Christ, la tête de l'Église, qui peut résoudre la difficulté. Mais je voudrais insister sur ceci. Nous sommes un problème, premièrement, pour nous-mêmes, et deuxièmement, pour les autres, tant que nous n'avons pas trouvé notre place dans le corps de Christ. L'ordre amène la coopération. C'est pourquoi, tirons exemple de la sauterelle qui instinctivement occupe sa place dans la troupe. Je citerai ici une phrase de Saint-Exupéry. Je crois que c'est dans « Terre des hommes ». Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu'un, mais on ne le sait pas toujours. Ça, c'est une pensée humaniste. Mais ça peut rejoindre l'Écriture. Lorsque je suis à ma place, je permets au corps de grandir. Le problème de l'Église, ce n'est pas qu'il manque de charisme ou de ministère, c'est que ceux qui ont reçu un charisme ou un ministère ne le mettent pas en pratique. Vous ne pouvez pas faire ce que je dois faire. Je ne peux pas faire ce que vous devez faire. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Et c'est le fonctionnement de toutes les parties qui donne de l'accroissement à l'Église. Et ça, les sauterelles l'avaient parfaitement compris. Chacun à sa place, sans discussion. Le lézard. On va résumer ses qualités par deux adjectifs. Audacieux et volontaire. L'audace présuppose deux choses. La connaissance exacte de nos limites, voire de nos impossibilités. Vouloir. Il y a un objectif à atteindre. Et parce qu'il y a un objectif à atteindre et qu'il paraît démesuré, se faufiler ici jusque dans les palais des rois, il y a toute la volonté du lézard est tendue vers ce but. Il y a un juge qui me paraît remplir ces conditions. Je veux parler de Gédéon, dont nous lisons l'histoire dans Juges 6 et Juges 7. Très souvent, on le considère comme un craintif. Je ne suis pas d'accord avec cette opinion-là. Parce qu'effectivement, la première image que nous avons de Gédéon, c'est qu'il bat le blé, non pas sur un air venteux et élevé comme d'habitude, mais à l'intérieur d'un pressoir, à l'abri des regards. Mais l'ange de l'Éternel ne s'y trompe pas. Il lui dit « Salut, vaillant guerrier, va délivrer Israël ». Mais Gédéon dit deux choses très simples, très pratiques et très concrètes. Il dit à l'ange, oui, effectivement, je veux bien aller, mais je suis de la tribu de Manassé. Manassé n'était pas une grosse tribu. Et qui plus est, je suis, dans mon clan et dans ma famille, je suis le plus jeune. Et deuxièmement, c'est un homme qui montrait beaucoup de détermination. Il avait été nourri par la parole de Dieu. Et il dit à l'ange, l'Éternel, nos pères, mes pères, ont raconté toutes les délivrances qui avaient été faites pour Israël. Mais je ne comprends pas. Et c'est là que donc l'ange de l'Éternel l'invite à s'engager. Et il va s'engager. Ce qui donnait donc audace et courage à Gédéon, c'était justement sa connaissance de l'Écriture. Il nous faut lire journellement l'Écriture, parce que c'est elle qui va nous former, c'est elle qui va nous corriger, c'est elle qui va nous rectifier, c'est elle qui va nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre jour après jour. Gédéon était donc conscient de ses faiblesses. Je conclus. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 15, dit ceci. « Prenez les petits renards qui ravagent les vignes en fleurs. » Les renards abondaient en Israël, et ils étaient craints parce qu'ils, quand ils passaient dans les vignes, ils cassaient les sarments. Il y a un juge, Samson, chapitre 15 des Juges, qui utilisa les renards pour se venger des Philistins. Il attrapa 300 renards, qu'il attacha deux par deux par la queue, en y mettant une torche. Et il lâcha tout ce beau monde dans les champs des Philistins, les vignes et les oliviers. Si je transpose ce verset et je lui donne une valeur allégorique, une petite épine peut causer de grandes souffrances. Un petit nuage peut cacher le soleil. Les petits péchés, entre guillemets, parce qu'il n'y a ni péché mortel ni péché véniel, il y a le péché tout court. Les petits péchés empêchent le Saint-Esprit d'accomplir son travail. Un peu de négligence, un peu de paresse. Et puis ce sont des catastrophes. Nous devons être méticuleux et persévérant dans notre vie chrétienne. Charles Spurgeon, qui était un prédicateur anglais de la fin du XIXe siècle, réputé pour son éloquence, mais aussi pour sa connaissance de l'écriture. Charles Spurgeon déclara ceci. Au temps de Noé, par sa persévérance, l'escargot a fini par atteindre l'arche. La persévérance est citée au moins 45 fois dans le Nouveau Testament. Et la persévérance va de pair avec la foi. Sans persévérance, sans endurance, la foi est vaine. Dieu a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ce qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce qui a été si important. Et je voudrais terminer par ce verset de Romains 15:4. Ce qui a été écrit, il a été écrit d'avance, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que par la patience et la persévérance, nous obtenions ce qui nous a été promis. Amen.